Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 18 décembre. Et très bon réveil, il est 6h. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 18 décembre, voici le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Sébastien.
Emmanuel Macron lance ce soir le grand débat national qu'il a promis aux Gilets jaunes. Réunion de travail prévue à l'Élysée avec Édouard Philippe et une dizaine de ministres. Une plateforme numérique sera créée pour que chacun puisse s'exprimer. Les Gilets jaunes qui réclament que soit permis notamment le référendum d'initiative citoyenne. Nous irons en Suisse dans un instant où ce qu'on appelle là-bas les votations sont organisées très régulièrement. Dans l'actualité également, les mutuelles appelées à faire un effort pour ne pas augmenter leurs cotisations. Et puis un satellite, dernier cri, lancé depuis Kourou en Guyane aujourd'hui. Il sera les yeux et les oreilles de l'armée française.
Europe 1.
Le président de la République était attendu à Biarritz aujourd'hui où il devait lancer la présidence française du G7. Déplacement annulé. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Il reçoit ce soir une partie du gouvernement pour réfléchir à l'étape 2 de la réponse donnée à la crise des Gilets jaunes. Ce grand débat national qu'il a promis sur des questions comme la fiscalité ou la citoyenneté. Aurélie Herbemont.
Le G7 attendra, l'heure est aux gilets jaunes. Une priorisation normale de mon agenda, assume Emmanuel Macron. Malgré la mobilisation en baisse, pas question de donner l'impression que la crise est passée. Le chef de l'État convoque donc ce soir Édouard Philippe et une dizaine de ministres, histoire de clarifier les modalités des concertations locales, plutôt floues à ce stade, avec un lancement officiel prévu jeudi, le temps presse. Une plateforme numérique verra le jour, en plus des débats sur le terrain. L'ancienne ministre Chantal Jouanneau, chargée de leur mise en œuvre, a vu des gilets jaunes, des élus et les ministères concernés. Bercy, écologie, santé, ministère qui phosphore sur les sujets à aborder en lien avec 4 thèmes. Fiscalité, transition écologique, organisation de l'État et citoyenneté. Au président de trancher le dispositif désormais avec un impératif, que ce ne soit pas un gadget selon un conseiller ministériel. Un autre abonde, le pire serait que les citoyens aient l'impression que ça ne sert à rien.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et Sébastien, parmi les sujets qui pourront être abordés, il y a cette revendication des Gilets jaunes, rendre possible le référendum d'initiative citoyenne comme en Suisse.
Oui, vous connaissez bien, là-bas on appelle ça la votation.
La votation.
Et cela permet au peuple de déclencher un vote sur un sujet donné à partir d'un certain nombre de signatures. Jean-Luc Boujon, vous êtes en Suisse pour Europe 1. Là-bas, cette démocratie directe, c'est une tradition bien ancrée dans la vie politique.
Oui, tous les 4 mois on vote à l'échelon communal, cantonal ou fédéral. Alors concrètement, il faut 100 000 signatures de citoyens pour déclencher un vote, dont le gouvernement doit tenir compte. On peut donc dire que ces votations, qui existent depuis plus d'un siècle, sont le socle de la démocratie directe sauce helvète. Et les Suisses en sont très fiers, à l'image de Geneviève.
C'est vous qui choisissez, point final. Et puis ça fait des décennies que ça dure, ça. Il y a même des cantons primitifs. Uri, Schwyz, Unterwald, Appenzell, c'est main levée, il y en a encore. D'accord. Vous imaginez ?
Alors ces votations traitent de tous les sujets, très sérieux. Par exemple, le mois dernier, de la primauté du droit suisse sur les juges étrangers, ou quand même plus secondaire, de la possibilité ou non de tailler les cornes des vaches. On peut aussi traiter d'immigration ou de fiscalité. L'important, c'est qu'on donne son avis, estime Mathieu.
Je suis consulté, je m'implique, je suis un acteur à mon niveau, mais je suis un acteur de la vie politique et des décisions qui sont prises. Il me semble que c'est l'essence même de la démocratie, non ?
Voilà, du coup, les Suisses trouvent cette revendication des Gilets jaunes français très fondée. Elle aura même un message pour nous autres.
Français, je peux que vous conseiller notre système. C'est antidépresseur et vous irez beaucoup mieux.
Voilà, vous l'entendez en Suisse, les citoyens sont contents, le gouvernement fédéral un peu moins, lui qui est parfois très embarrassé pour faire appliquer des votes qui ne sont souvent pas compatibles avec les accords internationaux signés par le pays.
Jean-Luc Boujon en Suisse pour Europe 1. Dans le même temps, le gouvernement doit trouver comment financer les mesures annoncées la semaine dernière. Cette nuit, l'Assemblée nationale est revenue sur l'assouplissement de la niche Copé, un avantage fiscal qui avait été accordé aux entreprises. Les députés ont aussi rétabli la taxation du loto du patrimoine. Et puis les géants du numérique seront mis à contribution dès le 1er janvier, c'est la fameuse taxe sur les GAFA, Google, Amazon et autres.
Et l'État demande aussi aux mutuelles de faire un effort.
Pression maximale pour éviter une augmentation des cotisations. Les représentants du secteur sont reçus aujourd'hui par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. François Geffrier.
Officiellement, ce n'est que le lancement d'un comité de suivi. Il s'agit en fait d'obtenir une victoire politique. Un engagement des mutuelles et des assurances santé à ne pas mettre sur le dos du gouvernement leurs augmentations de tarifs à venir. Chez la ministre de la Santé ce matin, puis à l'Élysée cet après-midi, assureurs et mutuelles vont être sommés de participer participer à l'effort du moment. Il y a le contexte gilet jaune, les tensions sur le pouvoir d'achat, explique-t-on au cabinet d'Agnès Buzyn. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Sous-entendu, profiter de la réforme du reste à charge zéro pour augmenter fortement les tarifs, ce n'est pas la peine d'y penser. Hier soir, les mutuelles semblaient prêtes à s'engager sur ce point, mais pas sûr qu'elles donneront un chiffre précis. Il faut dire que les tarifs augmenteront tout de même dans les années qui viennent pour faire face à la hausse régulière des dépenses de santé en France.
François Geffrier du service économie d'Europe 1. Ils ont passé plusieurs samedis face aux gilets jaunes. Les policiers sont-ils en train de rejoindre le mouvement ? Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation. Opération commissariat fermée avec la consigne de ne se déplacer qu'en cas d'urgence. Pas de patrouille ni de verbalisation. Ça commence dès ce matin. Les agents dénoncent un budget 2019 insuffisant pour les forces de l'ordre et demandent le paiement de plusieurs millions d'heures supplémentaires. Une semaine après l'attentat de Strasbourg, l'enquête progresse sur les éventuelles complicités du tueur. L'un de ses proches a été mis en examen hier soir par un juge antiterroriste et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un homme de 37 ans qui est soupçonné d'avoir aidé le terroriste à se procurer son arme. Deux autres suspects sont toujours en garde à vue. Et puis la révolte des chauffeurs VTC devant les prud'hommes. Première action collective aujourd'hui. Une dizaine de conducteurs attaquent le géant Uber et réclament d'être traités comme des salariés plutôt que d'être considérés comme des travailleurs indépendants.
Europe 1, il est 6h06.
Un nouveau satellite d'observation doit être lancé aujourd'hui depuis Kourou, en Guyane.
Il servira aux militaires français pour appuyer leurs opérations dans le monde entier. C'est un bijou de technologie. Dernier cri que nous décrit Aude Leroy.
Ce satellite est doté d'un télescope ultra perfectionné, une sorte de gros appareil photo capable d'envoyer sur Terre pas moins de 800 clichés par jour. Des images désormais en 3D d'une extrême résolution couleur, mais dont la précision est top secrète. Des images d'observation permettant de prendre, de jour comme de nuit, et sous toutes les coutures, les zones de crise. Et ça grâce à la grande agilité du satellite, explique Gilles Chalon, chef de projet au CNES.
Le satellite agile, ça veut dire qu'il avance suivant sa trajectoire. Par contre, il est capable de basculer très rapidement d'avant en arrière ou de droite à gauche, ce qui permet sur une même zone géographique, lors d'un seul passage, de pouvoir acquérir de nombreuses images. Donc ça, c'est un progrès significatif pour les utilisateurs.
Des images transmises maintenant toutes les heures et demie, contre 12 heures auparavant, grâce à la station de réception suédoise située sur le cercle polaire. Des clichés dont dépendent désormais les armées pour le renseignement, pour appuyer les opérations militaires ou encore pour guider des missiles, des yeux et des oreilles indispensables dans un espace que les grandes puissances sont de plus en plus tentées de militariser et d'armée.
Aude Leroy pour Europe 1. Un mot de foot pour terminer. Ce sera le banc de touche ou le départ. Au PSG, le milieu de terrain Adrien Rabiot est exclu du groupe jusqu'à nouvel ordre, mesure de rétorsion en quelque sorte, après que le joueur a fait savoir qu'il souhaitait quitter le club. Paris qui se déplace à Orléans ce soir en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.
Merci beaucoup. C'était le journal de Sébastien Krebs, dont promis en 2019, j'arriverai à prononcer le nom. On dit pas Sébastien Krebs ? Krebs. Krebs.
Krebs. Krebs.
Ah, moi je croyais que c'était Krebs.
Salut.
Ah, comme une crêpe. Désolé Sébastien, j'apprends mes erreurs.
Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Carla Bruni fait son entrée au musée Grévin, l'occasion pour Fabrice Almeida de revenir sur les origines de ce célèbre musée.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce mardi avec vous, Céline Dacosta. Une journée sous la grisaille, malheureusement.
Oui, c'est vrai que ça change d'hier. Il n'y a qu'un gros quart sud-est qui va profiter encore du soleil ce matin. Pour les autres, ciel voilé, voire couvert, avec une nouvelle perturbation qui arrive sur la pointe bretonne. Elle avancera vers l'est doucement. Elle gagnera le nord, l'Île-de-France, le Limousin, la région Midi-Pyrénées dans la soirée. Pour les autres, ce sera nuage, ciel toujours voilé et soleil encore pour la Corse uniquement. Les températures restent douces avec cet après-midi, une moyenne de 9 à 15 degrés du nord au sud. Il en fera 9 à Paris, 15 du côté de Toulon, un petit peu moins dans le nord-est, un 6 à 9 degrés seulement.
Merci Céline. Eva Rock.
Alors on a demandé aux auditeurs depuis ce matin, 5h, quel cadeau avait fait Pchit, le cadeau raté de Noël qu'ils avaient reçu. Pichouline, elle nous a répondu, je voulais un chien étant petite et mes parents m'ont offert un canari. Pardon, ça m'a fait rire.
Pour la déception.
Et Taco nous dit, mon premier Noël, depuis que j'avais quitté le sud pour Paris, ma mère m'a offert à ce jour-là une toque façon, vous savez, David Croquette, en vraie peau de lapin. Je suis végétarienne et je ne porte rien d'animal depuis toujours. Donc voilà pour le cadeau raté. Et Sophie me dit, il y a quelques années, ma belle-mère nous a offert un service à fondue. J'aime pas la fondue. De toutes ses formes, je l'ai revendu dans la foulée.
C'est comme vous offrir un service à raclette, par exemple.
Ah, pour moi, c'est
ça
pareil.
Vous fait plaisir, fondue, vous qui détestez le fromage. En revanche, pour ne jamais être déçu à Noël, moi, j'offre toujours le dernier album.
Mika
chante Noël. Et alors là, je peux vous dire que ça, ça cartonne sous le sapin. Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Pour vous, chers auditeurs, ce n'est qu'une voix. Mais pour nous, Jérôme Lacroix, c'est avant tout un style. Car quand vient la fin décembre, Jérôme ne se contente pas du traditionnel pull fantasy. C'est de la tête au slip que Gégé fête la magie de Noël. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce matin, son nouveau caleçon clignotant avec grelot devant et clochette derrière, figurant un lutin chevauchant un renne volant, n'a pas laissé indifférente Céline Dacosta.
Non, mais non. Tu te dis c'est mou et tout, et en fait après, attention, les clochettes. Et là c'est parti.
Mon champion, avec un public pareil, vous voilà dans des conditions optimales pour réaliser un beau journal des sports. À la une, Orléans... en effervescence.
Eh oui, une partie de la ville va vibrer foot ce soir. Elle accueille les stars du Paris Saint-Germain qui se rendent dans Loiret pour défier l'US Orléans, actuel 11e de Ligue 2. C'est un 8e de finale de Coupe de la Ligue. Ce soir, 9000 personnes sont attendues au stade de la Source. Le président orléanais Philippe Boutron raconte la fièvre qui a saisi la ville.
On a eu un engouement incroyable, on aurait pu vendre 25 000 places. Une des vertus du football, c'est que les surprises sont toujours possibles. Maintenant, c'est pas trop d'illusions, mais il faudra c'est pas avoir de regrets. Puis, on verra bien. Ce qu'on veut surtout, c'est que ce soit une grande fête et puis essayer de faire en sorte qu'Orléans devienne une vraie ville de foot.
Des propos recueillis par Juliette Jay pour Europe 1 Orléans PSG, coup d'envoi 21h. Mbappé Cavani sont là, mais pas Neymar. Il est blessé. Autre absent, Adrien Rabiot. Information Europe 1, le joueur de 23 ans, écarté du groupe, impossible de s'entendre sur une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Il devrait partir libre, gratuit en fin de saison. Plusieurs grands clubs d'Europe se seraient déjà positionnés. Un mot de Ligue 2, les Messins sont champions d'automne, titre honorifique qui signifie qu'ils finiront premiers à la trêve de mi-saison. C'est mathématiquement certain depuis hier et un succès 2-0 à Valenciennes.
C'était ambiance festive hier en début de soirée à l'Elysée.
Les nouvelles reines de l'Europe du handball, les Bleus, ont été reçues par Brigitte et Emmanuel Macron au lendemain de leur titre continental à domicile. Certaines joueuses, déjà reçues après le sacre mondial l'année dernière, semblaient à l'aise dans le palais présidentiel, au grand étonnement de Pauline Coatanea, 25 ans, qui s'y rendait, elle, pour la première fois.
Bah ouais, ça m'a fait bizarre parce que les filles sont arrivées tranquilles, c'est normal, on est à l'Elysée. Mais pour moi, c'était impressionnant et c'était super de voir le président, de voir qu'il a salué notre performance.
Il ne vous a pas fixé un autre petit challenge ? Les Jeux au hasard ?
Mais oui, il nous a mis déjà la pression sur les Jeux de Tokyo en 2020. Mais bon, d'abord, on va se prendre une petite semaine de vacances.
Des propos recueillis par Christophe Lamar, une semaine de vacances et ensuite, pour la plupart des joueuses, retour à l'entraînement dès le 26 décembre, lendemain de Noël.
Ça plaisante pas.
Voilà, le Stade français rugby l'annonce. Les obsèques de Nicolas Chauvin, jeune espoir de 19 ans, tragiquement décédé des suites d'un violent plaquage subi en plein match, auront lieu demain 14h30 à l'église Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Une cérémonie ouverte à tous selon les souhaits de la famille.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Mesdames, Messieurs, l'horreur et la barbarie ont frappé de plein fouet notre ville de Strasbourg.
Il y a eu des applaudissements, il y a eu une minute de silence aussi. Le Rhenus, la salle des sports de Strasbourg, a retrouvé hier soir le public une semaine après l'attentat. 5000 personnes pour un match de basket. La semaine dernière, confinés pendant l'attaque, ils avaient chanté la Marseillaise. Et hier soir, ils ont fêté leurs joueurs qui ont gagné. 5000 euros de la recette d'hier soir sont reversés à l'association des victimes de l'attaque.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. Et à présent Eva, on retrouve celui que vous attendez chaque matin avec beaucoup d'impatience. Vous voyez évidemment de qui je veux parler.
Le kiki de tous les kikis.
Oui, non, vous l'appelez comme vous voulez dans l'intimité, mais pour nos auditeurs, c'est quand même Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, ce matin, à l'heure où Carla Bruni fait son entrée au musée Grévin, se penche justement sur les origines et, j'ose le dire, le pourquoi du comment de ce musée étrange où on se presse pour voir des statues de cire.
Pourquoi ?
Ça, j'aimerais comprendre un jour.
Europe 1.
Je vous ai compris !
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Depuis hier, Carla Bruni-Sarkozy a son effigie de cire au musée Grévin. Elle y retrouve celle de son époux, Nicolas Sarkozy. Ça signifie quoi historiquement ?
C'est d'abord la preuve de son importance pour l'actualité. Car le musée Grévin a été créé pour rendre visibles et accessibles les personnalités qui faisaient les titres de la presse alors que ni la radio ni la télévision n'existaient. C'est le directeur du quotidien conservateur, Le Gaulois, Arthur Meyer, qui en a eu l'idée en 1880. Son but ? Permettre au peuple de voir de près les célébrités. Meyer réunit donc un tour de table avec un architecte, et des hommes d'affaires attirés par les bénéfices possibles. Il faut une tête d'affiche. On sollicite un caricaturiste en vogue qui faisait aussi des costumes de théâtre. Il s'appelait Alfred Grévin.
Et c'est Grévin qui a élaboré alors les premières figures de cire ?
Oui, secondé par une équipe, Grévin constitue la première collection de cire présentée lors de l'ouverture du musée le 5 juin 1882. On y trouve des politiciens, des gens du monde de l'époque. Mais ce soir-là, Alfred Grévin recueille les hommages tandis qu'Arthur Meyer s'agace de sa faible participation à la réussite du projet. Si bien que Meyer souhaite même retirer le nom de Grévin du musée. Le conflit tourne à l'aigreur entre les deux hommes après échange de courriers acerbes, poursuite en justice. Un compromis est finalement trouvé et donc Grévin et Meyer feront la réussite du musée qui rejaillit aujourd'hui sur les personnes qui y entrent.
Quelle est la portée de l'entrée d'une personnalité au musée Grévin ?
Ben pour la France, c'est un peu l'équivalent de la Walk of Fame. Vous savez, cette rue à Hollywood où l'on met les noms des stars avec leur prendre de leurs mains ou de leurs pas pour certains. Cela avalise la popularité et la belle carrière de Carla Bruni depuis ses lointaines années où elle était une belle mannequin. Elle sera donc pour l'éternité aux côtés de son époux fixe, Nicolas Sarkozy, une guitare à la main, à la fois chanteuse muette et première dame immobile.
Ah oui, elle est représentée avec la guitare, c'est la chanteuse qui est
voilà,
mise en avant.
Exactement.
D'accord. Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la ressource de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et d'interviews pour éclairer l'actualité. Une actualité encore et toujours dominée par le combat des gilets jaunes.
Je suis descendu un 17 en bas de chez moi. Les gilets jaunes étaient tous là. Entre la hausse et le prix de notre carburant, la France n'est pas content.
Et oui, c'est votre maman qui m'a envoyé cette chanson. Un mois et de nombreuses concessions plus tard, la question est désormais et maintenant, élément de réponse à 6h20 avec François-Bernard Huyghe, spécialiste des mouvements contestataires. On y vient, mais d'abord c'est lui.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron lance ce soir le grand débat national qu'il a promis aux Gilets jaunes. Réunion de travail prévue à l'Élysée avec Édouard Philippe et une dizaine de ministres. Une plateforme numérique sera créée pour permettre à chacun de s'exprimer sur la fiscalité, la transition écologique ou encore l'organisation de l'État. La crise sociale s'étend à la police. Plusieurs syndicats appellent les commissariats à se mobiliser pour demander plus de moyens et de meilleures conditions de travail. La consigne, ne répondre qu'aux appels d'urgence. Enfin, un mot de foot. Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir à Orléans. Coup d'envoi à 21h pour ce premier huitième de finale de la Coupe de la Ligue.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 18 décembre 2018. Et voilà plus d'un mois maintenant qu'a démarré le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui a obtenu plusieurs concessions du gouvernement, notamment une revalorisation du SMIC. Un mouvement qui a même désormais sa chanson.
Débranche ta télé et enfile ton gilet.
La question qui se pose est désormais et maintenant. Pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, nous sommes en studio ce matin avec un spécialiste des mouvements contestataires, François-Bernard Huyghe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Semaine décisive dans la gestion de crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui, on l'a dit à l'Élysée, ministre et acteur économique pour organiser la grande concertation nationale annoncée. Pendant ce temps, la mobilisation continue, les Gilets jaunes n'ont pas déserté le terrain. D'après votre connaissance des phénomènes contestataires, celui-ci est en train de s'essouffler ou au contraire de se pérenniser? On a du mal, on est à un point de bascule, on a l'impression là.
Oui, alors j'ai envie de vous dire l'un et l'autre. En ce sens, bon, on voit bien que les gens, au bout de 5-6 semaines à occuper les ronds-points, aller à Paris, ça coûte cher, ça perturbe la vie avant Noël, voilà.
Et c'est chronophage.
C'est chronophage et la police est mieux organisée, voilà. Et puis il y a la peur de la violence. Je discutais avant-hier avec une dame gilet jaune, oui. Ma fille me dit, mais quand même, maman, tu ne vas pas aller dans des trucs où il y a de la violence. Donc de ce côté-là, sous cette forme-là, je ne pense pas qu'ils vont faire 12, 15, 22 samedi à Paris. Quoi. Voilà. Il va y avoir des négociations, ça va mettre un peu le bazar parce que qui représente qui, comment on les élit. Enfin, bon, voilà, l'avantage de ne pas avoir de représentant, d'être pour la démocratie directe, de ne pas avoir de chef, de ne pas avoir d'idéologie, ça peut se transformer en inconvénient. En revanche, là où ça peut... Je vois deux raisons pour lesquelles ça pourrait perdurer.
Oui.
La première, c'est évidemment, on est avec des gens qui, comment dirais-je, sont devenus très méfiants. Et s'ils ont l'impression qu'on les embrouille avec les 100 euros de SMIC qui ne sont pas vraiment de la prime ou du truc ou du machin, ou qu'on va faire de la parlotte avec des technocrates, il y aura un mouvement. Et par ailleurs, ils sont devenus, j'allais dire, très susceptibles sur le thème qu'ils mettaient sur leur bannière, on n'est pas des cons.
Mais l'argument qu'on peut vous opposer, c'est que, enfin, on peut leur opposer, pardon, c'est que leur demande n'était pas très structurée,
certes,
très précise à la base. Donc aujourd'hui, ils peuvent effectivement être susceptibles, mais on ne sait pas ce qu'ils voulaient exactement à la base. Donc c'est difficile pour le gouvernement de se positionner.
Alors, C'est vrai qu'il y a eu une évolution incroyable. Alors, on est parti du prix du centime à la pompe à la revendication de la démocratie directe avec renvoi possible des mandataires, qui est un truc dont les Grecs discutaient il y a 2500 ans. Donc on peut dire qu'il y a eu une certaine évolution. Moi je dirais qu'il y a, alors, il y a, la couche socio-économique, et là il ne faudra pas les tromper. Hein, je veux dire, ce sont des gens qui vont qui voient les choses sur le terrain et qu'on n'aura pas avec des promesses ou avec des usines à gaz compliqué où on subventionne d'un côté ce qu'on tire de l'autre. Il y a la dimension que j'appellerais morale, c'est-à-dire ça a été qui se traduit par des revendications morales. Je suis frappé par le nombre de gens qui disent nous sommes les invisibles, on n'est pas des cons, on a droit à la parole, nous sommes le peuple, nous sommes là. Donc ils veulent être reconnus et surtout, ne pas être traités avec mépris. Le mot mépris est revenu de façon incroyable. Dans le bouquin qu'on va sortir là-dessus, je fais un chapitre sur le mépris.
Est-ce que, comme le revendiquent certains gilets jaunes, la France a changé vraiment ces dernières semaines? Parce que là, on est le nez dans l'actu, on ne se rend pas vraiment compte. Oui. Est-ce que c'est un mouvement qui restera dans l'histoire comme mai 68? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une lame de fond?
Alors, oui, je crois. Évidemment, comme dit l'autre, il est difficile de prédire, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais je crois que c'est quand même une lame de fond. Franchement, en 2017, Macron a démonté le système politique droite-gauche et eux, ils sont en train de démonter le macronisme. Donc,
oui, ça va très simple. L'histoire s'accélère. Eva Rock.
Pardon, à se focaliser sur les actes de violence et puis les revendications d'une partie des Gilets jaunes, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé en fait l'importance du lien social qu'on a tissé sur les ronds-points?
Ah bah absolument. Alors, la violence, bon, je dirais que c'est quelque chose de presque secondaire. D'une part, parce que elle était le fait de quasi-procédure. Enfin, j'étais au manif, hein, on voit très bien à quelle heure arrivent les gars, les Kaira, comme on dit. Hein. C'est pas les bons pépères bedonnant en gilet jaune. C'est pas la même chose.
Pour vous, il n'y a aucun gilet jaune qui était dans la violence?
Il y en a, parce que vous avez, je vais pas mentir, quand vous avez fait une vie honnête et que vous faites gazer pour la première fois, bah vous vous énervez. Voilà, on n'a pas, ils n'ont pas toujours des réflexes. Je veux dire, eux, quand on les provoque au bar, ils mettent une baffe. Hein, c'est un peu ça. Bon, en dehors de, mais je veux dire, bon, laissons de côté la violence. Il y avait un besoin d'être ensemble,
ça,
de faire groupe, de reconquérir sa dignité. Écoutez. Moi, on m'a embrassé dans les manifs. Hein. Je suis pas un type particulièrement chaleureux. On m'a embrassé dans les manifs quand j'ai dit je suis un Parisien. Je viens avec vous. En plus, j'écris des livres. Je suis un intello, etc. Et les gens demandaient à fraterniser. Il y a des gens sur les ronds-points qui expliquent qu'ils ont organisé symboliquement, par exemple, qu'ils font un brasero, ils font du feu pour se réchauffer le cœur. On est bien ensemble. Ça y est, on a conquis la visibilité.
Un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est presque ça, qu'on en est presque là.
Je le dis sans aucune ironie. Oui, il y a vraiment un besoin d'amour, un besoin de communauté. Les slogans, nous sommes les Français, nous sommes le peuple, nous sommes la place moyenne. Moi, il y a une image qui m'a bouleversé, cette femme qui écarte les bras comme ça, qui se met devant les CRS et qui dit « Mais nous sommes la France, nous sommes le peuple ». Enfin, c'est... Et elle dit des mots grossiers.
Merci beaucoup François Bernard-Huyg. On rappelle donc que votre livre, vous travaillez à l'écriture d'un livre qui sortira en janvier 2019,
absolument,
dans la tête des Gilets jaunes. Hein,
avec une étude sur leur activité sur les réseaux sociaux. Voilà, première.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1 en direct.
Europe 1, il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient, les nuages aussi.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta avec un ciel assez nuageux aujourd'hui.
Oui,
Céline.
Dans l'ensemble, le ciel va rester couvert, surtout sur le nord-est où on a en plus ce matin des brouillards. Le soleil résistera sur un gros quart sud-est ce matin et sur la Corse. Et puis une nouvelle perturbation arrive sur la pointe bretonne avec des averses et du vent, de bonnes rafales de vent à 100 km/h sur la pointe bretonne pour ce matin. À l'intérieur des terres, ce sera 70-80 km/h puisque le vent va suivre cette perturbation qui se décalera lentement vers
vers l'est. On retrouvera ces pluies sur une ligne Lille, Paris, Limoges, Pau dans la soirée. Elles seront accompagnées de ce vent et pour les autres, c'est un ciel voilé, voire nuageux. Ça restera bien couvert sur le nord de l'Alsace et le Val de Saône où là les grisailles vont persister et les nuages gagneront aussi le sud-est. Seule la Corse aura du soleil cet après-midi.
Un mot des températures ?
Toujours douce pour la saison avec ce matin une moyenne de 5 à 11 degrés, un petit peu moins par endroit. On a 0 degré à Besançon par exemple, 3 à Nîmes, 4 à Perpignan. Et puis cet après-midi, la moyenne sera de 6 à 9 degrés dans le nord-est et les plus basses, 9 à 11 degrés pour la moitié nord avec 9 à Paris, 11 à 15 degrés pour les autres, 16 degrés même du côté de Perpignan.
Merci Céline. Eva Rock, vous êtes toujours au contact de nos auditeurs.
Oui, depuis 5 heures du matin, on leur a demandé le cadeau qui avait fait pchit à Noël, le cadeau raté. Eh bien Stéphane nous répond,
la liste est trop longue, hein.
Et il nous dit j'ai reçu un martinet, ça fait plaisir.
Un martinet, ça dépend de ses
Mais en fait, c'était une farce et il a boudé toute la soirée parce qu'il était petit. Hein. C'était un cadeau quand il était enfant.
Ah oui, non, c'est pas drôle.
Et Till the Cat nous dit une année d'adolescence, ma mère a répondu par exemple des caleçons à ma fille qui demandait des idées cadeaux, à ma famille qui demandait des idées cadeaux. J'en ai eu 6. Et Laurent, sa grand-mère maternelle, s'obstinait à lui offrir des puzzles à chaque nouvel an. J'étais un enfant calme et tout le monde était persuadé que les enfants calmes ont la patience pour les puzzles. Elle s'est aperçue qu'à la fin, non, c'était pas vraiment le cas. Merci pour tous vos messages. Et vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci, elle va rester avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'équilibrisme entre l'info et le rire, avec pour seul filet de sécurité, mes consoeurs Eva Rock et Céline Dacosta. Est-ce suffisant en termes de sécurité, me direz-vous ? Bonne question. Hier, durant la diffusion de la chanson de Mariah Carey à 5h15, je me la suis posée aussi.
For Christmas, you. Et là c'est parti,
oui. Il faudrait peut-être un filet de sécurité un peu plus solide à suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec au programme notamment la venue prochaine du président chinois en France début 2019, une opération séduction de la Chine selon notre expert Michael Darmon. Oui, quand vous tapez séduction Chine sur Google, c'est ça qui sort. Il faut le savoir, faut le savoir.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Il a décidé de s'en occuper personnellement. Emmanuel Macron annule un déplacement prévu à Biarritz pour rester à l'Elysée aujourd'hui avec une grande réunion pour organiser la concertation nationale promise aux Gilets jaunes. Comment donner le sentiment de davantage de justice fiscale en taxant les géants du numérique, a répondu le ministre de l'économie. Bruno Le Maire accélère. Les Google, Facebook, Apple et Amazon devront payer dès le 1er janvier. Et enfin, si vous faites partie des 10 millions de Français sujets aux migraines, peut-être une bonne nouvelle. Des chercheurs ont découvert ce qui déclenche les crises. Traitement plus efficace en perspective.
Europe 1.
Emmanuel Macron était censé lancer la présidence française du G7 à Biarritz et prononcer un discours sur les priorités diplomatiques de la France. C'est annulé. Le président a décidé de rester à Paris et de convoquer Édouard Philippe et plusieurs ministres. Réunion à 18h à l'Élysée afin de finaliser et de clarifier les règles de la grande concertation nationale promise aux Gilets jaunes. Le chef de l'État tient donc à superviser cela personnellement et à rendre les derniers arbitrages. Les contours de ce débat seront présentés demain en Conseil des ministres. En attendant, on n'en sait plus sur une mesure de justice fiscale dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Bruno Le Maire avait annoncé qu'il n'attendrait pas un accord au plan européen pour s'attaquer à la fiscalité des géants du numérique. Une taxe franco-française sur les GAFA va donc voir le jour et cela ne va pas traîner. Anne-Laure Jumet.
Dès le 1er janvier prochain, les géants du numérique seront taxés. La France veut les frapper au portefeuille sans attendre l'éventuelle adoption de cette taxe au niveau européen, car il y a urgence à trouver des financements pour tenir les promesses présidentielles. Bercy en attend 500 millions d'euros. Alors cette taxe portera sur le chiffre d'affaires, mais pas seulement. Elle s'étendra aux revenus publicitaires et à la revente de données personnelles, et ce sur l'ensemble de l'année 2019. Google, l'un des premiers groupes ciblés, a déjà indiqué qu'il paierait cette taxe si la loi l'exige. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires déclaré en France est de 325 millions d'euros, mais ses recettes publicitaires sont beaucoup plus importantes. Alors impossible pour autant de savoir combien le groupe paiera d'impôts en plus l'an prochain, car quand on cherche à savoir auprès de Bercy quel pourcentage sera appliqué, on nous répond que c'est trop tôt. On ne sait pas non plus quelles seront précisément les entreprises concernées par cette taxe. Ce sera manifestement plus large que les géants dont on parle. Le sujet devrait être tranché d'ici quelques mois, puisque l'idée, c'est d'intégrer cette mesure à la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises. Un texte qui revient à l'Assemblée en mars prochain.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui sont en colère. Les hommes en bleu aussi veulent davantage de pouvoir d'achat. Les syndicats policiers réclament plus de moyens, de meilleurs salaires, le paiement des heures supplémentaires en stock. Le syndicat Alliance appelle à une journée noire demain dans les commissariats. Pas de grève, mais les fonctionnaires seront invités à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Pour se rendre populaire, les gilets jaunes ont bien souvent ces dernières semaines ouvert de force les barrières de péage sur l'autoroute. Les automobilistes n'avaient donc d'autre choix que de passer sans payer. Eh bien, en ce qui concerne le groupe Vinci, il ne sera pas question de tolérer cela. Les plaques d'immatriculation ont été enregistrées et relevées. Les conducteurs se verront notifier l'obligation de s'acquitter de leur dû. Les explications de Maud Descamps.
Même si la barrière était relevée, même si les gilets jaunes vous ont empêché d'introduire votre carte bleue dans la machine, il faudra payer. Pour vous retrouver, c'est simple, les compagnies d'autoroute disposent d'un système de lecture des plaques d'immatriculation pour chaque véhicule qui franchit une barrière de péage. La loi, c'est la loi, nous dit-on chez Vinci. Franchir un péage sans payer est une infraction au code de la route, ce que confirme un avocat en droit des automobilistes, et cette infraction est punie d'une contravention, montant de l'amende jusqu'à 35 euros, auquel s'ajoute le prix du péage pour la portion de route empruntée. Mais compte tenu du caractère exceptionnel de ces passages non acquittés, Vinci, dont 50 barrières de péage ont été ouvertes par les gilets jaunes, ou encore autoroute Paris-Rhin-Rhône, ont choisi de faire preuve de clémence à l'égard des automobilistes. Il n'y aura pas d'amende, mais juste le prix du péage à payer. Une fois le courrier reçu, vous aurez 60 jours pour vous acquitter de la facture. Sinon, votre dossier sera transmis à l'officier du ministère public avec le risque d'une majoration de 75 euros.
Information signée Maud Descamps. Nous vous en avons souvent parlé. De nombreuses femmes ont ces dernières semaines revêtu le gilet jaune. C'est l'une des confirmations de ce mouvement. Les femmes, surtout lorsqu'elles sont parents isolés, font partie des populations les plus fragiles. Écoutez ce portrait d'Emma qui élève seule un enfant handicapé avec 700 euros par mois. François Coulon l'a rencontré sur un barrage à proximité du dépôt pétrolier de Lorient.
Elle est la maman d'une petite Noémie de 7 ans handicapée. C'est pour s'occuper d'elle à plein temps qu'Emma a mis son emploi d'aide-soignante de côté. Séparée du papa depuis 2 ans, elle a brutalement divisé ses revenus par 3. Emma parle pudiquement de grande précarité.
Je suis passée de 2400 euros en couple à 700 euros en mère isolée avec mon enfant. Je suis censée pouvoir compter sur 160 euros de pension versée par le papa qui arrive aléatoirement.
Et vous faites comment alors pour vivre ?
Je ne vis pas, je survis, monsieur. On va à l'essentiel et même l'essentiel est difficilement atteignable. Ma fille ne manque jamais de rien, mais moi je tourne avec une paire de chaussures sur une année. Les repas pour moi, c'est souvent que des pâtes. Pour les charges alimentaires, il doit me rester aux alentours de 120 euros. On survit. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de plaisir. La vie, c'est que se battre pour savoir comment demain on va pouvoir subsister.
Vous êtes dans quel état d'esprit ?
Je n'ai plus rien à perdre. Si je reste chez moi, de toute façon, je sais que le découvert va augmenter. On va continuer à s'enfoncer jusqu'au jour où on ne pourra plus rien faire et qu'on va se retrouver à la rue.
Emma dort peu depuis 3 semaines pour mener le combat quotidien au port de Lorient. Je vais le poursuivre, dit-elle, car aucune des mesures Macron ne me concerne. Lorient, François Coulon, Europe.
Plusieurs organisations environnementales vont attaquer l'État français en justice. Greenpeace, Oxfam ou encore la Fondation pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas Hulot, veulent saisir le tribunal administratif. Dans un document préalable envoyé au président de la République, ces ONG accusent la France de ne pas respecter son obligation de protection de l'environnement, une obligation qui découlerait de la Convention des droits de l'homme. L'enquête sur l'attentat de Strasbourg progresse. Un proche de Chérif Chekat a été mis en examen hier par un juge antiterroriste est placé en détention provisoire. Cet homme de 37 ans est soupçonné d'être lié à la fourniture du revolver qui a servi à l'attentat. Je vous rappelle que 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées.
À suivre dans ce journal, une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent de migraines. Des chercheurs français ont fait une découverte. Nouveau traitement en perspective. A tout de suite.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan, vous nous parlez de la migraine avec peut-être une bonne nouvelle pour tous ceux qui en souffrent.
Oui, ils sont entre 6 et 10 millions en France à ressentir ces terribles douleurs. Des scientifiques du CNRS et de l'Université Côte d'Azur viennent d'obtenir des résultats très encourageants qui leur permettent de mieux comprendre ce qui déclenche les crises. Explication Mélanie Gomez.
Selon ces chercheurs, l'un des points clés pour expliquer les crises de migraine, ce sont des petits canaux présents dans notre cerveau qu'on appelle les canaux ioniques. Ces petits canaux, quand tout va bien, leur rôle, c'est de créer de l'activité électrique entre les neurones, mais surtout de la contrôler. Et donc, ce que cette équipe vient de montrer, dans une forme génétique de migraine, c'est qu'il peut y avoir un dysfonctionnement de ces canaux. Chez certains patients, ils contrôlent moins bien l'activité électrique, ils ne jouent plus leur rôle de frein, en quelque sorte. Résultat, les neurones sont surstimulés, surexcités, et c'est ce qui va déclencher la migraine. Donc, l'objectif maintenant, précise Guillaume Sandoz du CNRS, c'est de mettre au point des médicaments ciblant ces canaux.
Le but de ces médicaments, ça serait de venir activer ces canaux, ce qui entraînerait un frein en fait sur l'activité électrique des neurones qui sont impliqués dans la crise de migraine. Il y a un vrai espoir d'élaborer de vrais antimigraineux. Alors il faut savoir que certains cas de migraine, les gens savent qu'ils vont avoir une migraine puis qu'ils ont des auras avant. Donc en fait, on pourra prévenir la mise en place de la migraine.
Alors il faut savoir qu'il existe déjà une molécule qui agit sur ces canaux, pas encore sur le marché, mais du coup, les tests vont pouvoir se mettre en place rapidement, dès le mois prochain chez l'animal, d'ici un an chez l'homme. Si cela fonctionne, un traitement pourrait être sur le marché dans 5 ans.
La spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.
Concluons avec un petit psychodrame dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.
Oui, rien ne va plus entre Adrien Rabiot et son club. Le joueur qui, je vous le rappelle, pour vous le situer, avait boudé car il n'était pas sélectionné pour la Coupe du Monde en Russie, n'était que réserviste. Il refuse maintenant de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Il est aujourd'hui totalement écarté du groupe parisien selon les informations européennes de Julien Froment.
Le divorce entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain s'est précipité dans la journée d'hier en 3 actes. Premier acte à 13h, conférence de presse de l'entraîneur Thomas Tuchel, très vague au moment d'évoquer l'avenir de son joueur.
Non, je ne peux pas assurer qu'Adrien finit la saison avec nous parce qu'il n'a pas dit oui pour PSG.
Deuxième acte, en début de soirée, le directeur sportif parisien Antero Henrique annonce à Yahoo Sport la fin des négociations avec Rabiot pour sa prolongation de contrat. Parlant, je cite, d'une situation irrespectueuse pour le club, il restera sur le banc, lâche le dirigeant très agacé. Enfin, troisième acte à 23h, une source interne au club informe Europe 1. Non seulement le joueur ne fait plus partie des titulaires, mais il est totalement écarté du groupe. Un gâchis monumental, Rabiot, 23 ans, plus de 200 matchs avec le PSG, son club formateur, ne semble pas s'être remis de son coup de sang avant la Coupe du Monde. Il avait alors refusé d'être réserviste avec les Bleus. Désormais, deux options s'offrent à lui, partir cet hiver ou rester sur le banc jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Joint par Europe 1, l'avocat d'Adrien Rabiot s'est refusé à tout commentaire.
Information signée Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Je vous rappelle que ce soir, le Paris Saint-Germain ira à Orléans, club de Ligue 2, dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et pour finir, Mathieu, une question. Que préférez-vous ? Passer un an en prison ou bien être obligé de regarder Bambi une fois par mois ?
Regardez Bambi en prison.
Oui, c'est ce qui va se passer pour un homme qui va subir les deux. C'est la peine infligée par un juge de l'État du Missouri à un braconnier multirécidiviste, David Berry.
Et vous êtes sérieux là,
David. Je suis totalement sérieux. Il a donc été condamné à cette double peine, un an de prison et regarder Bambi de Walt Disney une fois par mois.
Et pourquoi donc ?
Parce qu'il a tué avec des membres de sa famille des centaines de cervidés de manière illégale sur une période de 3 ans.
Vous êtes sûr que regarder Bambi, ça va le calmer ?
Moi, j'en doute personnellement, mais enfin, le juge d'État.
De l'efficacité de cette décision.
Le juge du Missouri, lui, pense
mais
le contraire.
Ne nous immisçons pas dans la justice américaine.
Non, surtout pas.
Elle doit rester indépendante. Merci, c'était le journal de David Doucan. Mais dites-moi, David, je me suis hésité, vous étiez également cinéphile, plutôt art et essai, à ce que j'ai compris. Vous n'auriez pas un coup de cœur à partager avec nos auditeurs ? Le dernier Jacques Audiard, peut-être ?
J'ai bien aimé Skyfall. C'est bon, ça.
Bon, alors passons plutôt à la météo, avec celle qui est un peu votre Moni Penny, Céline Dacosta.
Oui, alors c'est le couvert et averse hein, qui arrive par l'ouest, ça c'est le programme.
Oui,
je suis la secrétaire de David Doucan.
Alors une perturbation. Moni Penny, c'est pas pour ça que je disais ça, c'est pas la secrétaire, hein, c'est juste qu'il y a une relation jamais aboutie entre les deux.
Oui, un peu ambigu.
Plus
c'est
ambigu.
Pas faux.
C'est tellement laborieux.
Et ma
David
Doucan fait David. Une sortie comme au théâtre, c'est-à-dire qu'il parle mais loin du micro, vous ne l'entendez plus. Il fait des grands gestes et des grandes tirades mais loin
il
de vous.
Il claque la porte. Alors une perturbation arrive par la pointe bretonne dans la matinée avec du vent, de bonnes rafales à 100 km/h sur la pointe et puis 70-80 km/h dans les terres. Ces averses vont se décaler vers l'est, gagner les régions du nord jusqu'à la région Midi-Pyrénées en passant par Paris et Limoges en début de soirée. En attendant, le ciel sera couvert, voilé la plupart du temps. Le soleil résiste ce matin sur un gros quart sud-est mais seule la Corse va en profiter cet après-midi. Le vent sera aussi bien sensible des Pyrénées au Massif central et les températures toujours douces pour la saison.
Merci Céline.
Europe 1. Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, qui à force de vouloir toujours avoir un temps d'avance sur l'actu, finit parfois par être vraiment en avance, comme hier.
Alors, il est 6h35.
Oh, à 1h près, 2h à suivre. Leur point de vue est précieux et peut vous aider à vous forger le vôtre. Nos trois fantastiques arrivent au sommaire, notamment ce matin, la visite prochaine du président chinois en France. Une véritable opération séduction, nous annonce Mickaël Darmon. Des Chinois qui ne sont donc visiblement pas rancuniers et qui ont pardonné à Eva Rock ses calembours malheureux.
Quand la Chine s'éveille, les laboratoires pharmaceutiques sourient. Non, c'est pas une contrepréterie.
Oui, mais pas loin.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron annule sa présence au G7 à Biarritz. Le président a décidé de rester à Paris et de convoquer Édouard Philippe et plusieurs ministres pour une réunion ce soir à 18h à l'Elysée. Objectif, finaliser et clarifier les règles de la grande concertation nationale promise aux Gilets jaunes. Le syndicat Alliance appelle à une journée noire demain dans les commissariats. Pas de grève, mais les fonctionnaires seront invités à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Les syndicats de police, après plusieurs semaines de très fortes sollicitations, demandent de meilleurs salaires et plus de moyens. Et puis, l'enquête sur l'attentat de Strasbourg progresse. Un proche de Chérif Chekat a été mis en examen hier par un juge antiterroriste et placé en détention provisoire. Cet homme de 37 ans est soupçonné d'être lié à la fourniture du revolver qui a servi à l'attentat. Je vous rappelle que 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et les trois fantastiques sont là. Ils sont tous là, même Mickaël Darmon. D'ailleurs, Eva, qu'est-ce qu'on dit à Mickaël pour le féliciter ?
Waouh ! Bravo !
Mickaël, notre expert politique, qui ce matin va nous parler de la visite prochaine du président chinois en France, une véritable opération séduction chinoise. M'avez-vous dit deux questions ? Un, en quoi ça va consister ? Et deux, les Chinois sont-ils plus doués en séduction qu'Axel de Tarlé ?
Eva, ce soir, veux-tu que nous allions prendre un pot tous les deux après le boulot ?
Notez que ça peut difficilement être pire. Hein. Mickaël Darmon, on commence donc par la politique. Dans les coulisses de la vie internationale, que se passe-t-il entre la Chine et la France ? Que des belles choses, semble-t-il, Mickaël ?
Eh bien, effectivement, les responsables chinois multiplient les marques de prévenance. Récemment, le ministre des Affaires extérieures du PC chinois a passé plusieurs heures en compagnie du ministre des Affaires étrangères Le Drian et, information Europe 1, dans les couloirs du G20 à Buenos Aires, eh bien, le numéro 1 chinois Xi Jinping a confirmé à Emmanuel Macron qu'il se rendra en France début 2019 au premier semestre. Alors au Quai d'Orsay, on souligne que tout ce qui peut permettre de maintenir, de faire avancer les grands sujets de matière multilatérale, c'est bon à prendre. Bon, la vérité quand même, beaucoup moins angélique. Les Chinois sont forcés de rabattre leurs ambitions commerciales sous les coups de boutoir des USA. La fermeté de Donald Trump face à la Chine porte ses fruits et le projet de Chine 2025 est revu à la baisse. Les Chinois se font d'ailleurs retoquer en particulier sur le domaine des télécoms et de leur projet de contrôler le marché mondial de la 5G. Donc en comptant sur des jours meilleurs, c'est-à-dire le départ un jour de Trump, eh bien Pékin réoriente ses ardeurs vers l'Europe, moins en capacité de créer un rapport de force.
Et ce que vous nous dites, c'est que le projet d'expansion planétaire chinois passe par la France et pas n'importe où.
Et oui, la route de la soie passe par Marseille. Routes de la soie, c'est le projet, vous savez, d'influence économique, énergétique et numérique développé par les Chinois. C'est un projet d'un monde global, en clair, les contours d'un empire nouveau qui prend les routes depuis l'Asie centrale jusqu'à la Méditerranée. Alors depuis l'an passé, les autorités du port autonome de Marseille se démènent pour figurer sur la carte des nouvelles voies commerciales que la Chine déploie. Et pour y parvenir, même le port provençal convoque Deng Xiaoping. Vous savez, en 1920, le père de l'ouverture économique chinoise avait débarqué donc à Marseille pour son arrivée en France. Début 2018, le groupe chinois Kanshen 20 a annoncé l'implantation d'une usine de silice à Fos-sur-Mer. Et en 2021 et en 2020 également, il y aura un câble sous-marin chinois baptisé Peace, c'est ironique, devrait relier Marseille au Pakistan et de là à la Chine. En France, au sommet de l'État, on est très attentif à ces routes de la soie en disant que c'est une conquête pacifique. Diagnostic un peu pragmatique, naïf ou résigné, on verra. Mais en vérité, donc, face à une Europe affaiblie, la Chine vraiment ne rencontre aucune résistance. Et il faut admettre que les routes de la soie dessinent un monde nouveau. Alors un monde vraiment nouveau, celui-là. Hein. Aujourd'hui, une décision plus importante est prise à Astana, au Kazakhstan. Eh bien, elle a plus de poids qu'à Rome ou à Madrid. Et effectivement, donc, le nouvel ordre planétaire passe donc, par la Chine avec... Ce principe, encore une fois, tiré donc d'un dirigeant chinois, hein, pragmatisme chinois, peu importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris.
Lao Tzu, non.
Deng Xiaoping.
La nouvelle, c'est que Xi Jinping va devoir ferrailler avec la CGT du port autonome de Marseille. On va voir le bras de fer, là.
Oui. Moi, je prends un pari sur le résultat.
Ah, la CGT du port de Marseille.
Ça peut être un combat intéressant, effectivement. Axel de Tarlé, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. Et vous avez une mauvaise nouvelle. On se souvient qu'Arnaud Montebourg voulait les nationaliser en 2012. ArcelorMittal officialise l'arrêt définitif de ses hauts fourneaux à Florange.
Oui, voilà. Alors on se souvient qu'en échange, il y avait eu un accord qui avait été trouvé. Mittal, pendant 6 ans, avait mis sous cocon, c'est comme ça qu'on dit, ces deux hauts fourneaux donc, qui produisaient hein, de l'acier liquide, vous savez, à 1600 degrés. Et Mittal s'était par ailleurs engagé quand même à Florange à investir 180 millions d'euros. C'était en décembre 2012, donc nous sommes 6 ans plus tard, en décembre 2018. Et donc, que s'est-il passé puisqu'il s'était engagé à mettre sous cocon ces deux hauts fourneaux pendant 6 ans? Eh bien voilà, on a le résultat. Ces deux hauts fourneaux vont être définitivement fermés. En fait, Mittal explique qu'on ne peut plus produire de l'acier en Lorraine de façon compétitive parce que la France est victime des importations, notamment d'acier qui viennent de Russie. La Russie qui n'est pas soumise, explique-t-on chez Mittal, aux mêmes normes en matière de taxes carbone. Et puis, alors, il y a aussi, vous parliez de la Chine à l'instant, le dumping chinois. C'est que la Chine est en surproduction en acier. Les Chinois produisent 250 millions de tonnes d'acier en trop. C'est plus de 250 millions de tonnes que l'ensemble de la production européenne. Donc, que font-ils de ces surproductions? Eh bien, ils les exportent à bas coût en Europe. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les Chinois sont aimables à notre endroit. C'est pour mieux écouler leur surproduction d'acier d'acier fabriqué en Chine.
Mais Axel, la situation paraît un peu inextricable. Que faire à Florange? Lakshmi Mittal avait promis d'investir 180 millions d'euros.
Voilà, alors ça, pour le coup, la parole a été tenue. Mittal a même investi à Florange 300 millions d'euros. En fait, Florange est devenu un site de transformation de l'acier, qui est fabriqué ailleurs, mais c'est là qu'on le transforme pour l'automobile, pour l'électroménager, pour le BTP. Et donc, ça marche très bien. Il y a même un nouvel investissement de 22 millions qui est prévu. À Florange, il y a quand même 2300 salariés qui travaille sur ce site.
Ah, mais tout va bien, vous m'avez fait peur, Axel.
Mais de ce point de vue, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats ne protestent pas contre la politique de Mittal à Florange, parce qu'il y a même eu 300 nouvelles embauches depuis 2014. Néanmoins, toute cette histoire quand même nous interroge sur la capacité de l'Europe à établir un commerce équitable vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Est-ce que vous me dites à l'instant, Michael, quand on voit que Xi Jinping a décidé maintenant d'avoir une politique plus offensive avec l'Europe, il va falloir faire attention à établir un commerce équitable entre la Chine et
puissent les Chinois vous entendre, Axel.
Mais c'est pour ça que je vais vous dire, c'est pour ça que c'était pas du tout méchant ce que je disais envers la CGT. Au contraire, je pense que les syndicats sont peut-être plus forts qu'à Bruxelles pour savoir défendre nos intérêts et garder notre industrie.
Je crois que Xi Jinping vous a entendu, Axel.
Si la Chine remet en scène, voilà un beau combat. C'est pas mal.
Merci Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Moi, j'arrive avec un petit documentaire qui s'appelle Petit arrangement avec Noël, qui est diffusé sur France 2 à 23h25. Vous savez, Noël, cette féerie avec son lot d'illuminations, de décorations, de sapins, de cadeaux, de repas animés. Mais l'esprit de Noël se joue parfois de cette jolie vitrine. La réalisatrice Lorraine de Bézieux a osé porter un regard un peu plus critique sur cette fête de fin d'année. Elle a laissé traîner sa caméra dans plusieurs foyers. Chez cette dame, par exemple, qui raconte cette soirée familiale teintée d'hypocrisie. Chez cette maman divorcée, maman de deux ados qui tente tant bien que mal de préserver un peu de magie. Ou encore dans cette famille recomposée où les enfants, au départ, ont vu Noël comme la fin d'une histoire.
Quand nos parents ils se sont séparés, on s'est dit « Ah ouais !» Ça veut dire qu'il y a deux Noël, deux anniversaires, on double tout. Mais en fait, c'est triste dans le sens où on préférerait être tous ensemble, fêter un grand Noël, un grand jour de l'an.
Alors le documentaire s'arrête sur ce rapport parfois ambigu qu'on entretient avec cette fête en matière de surconsommation, sentiment d'exclusion même pour certains, ou trop de conventions sociales pour d'autres. Et puis, il reste quand même ces petits moments magiques, et notamment la lettre au Père Noël.
Bonjour Père Noël, j'ai fait des efforts à l'école, je m'entraîne plus à la flûte, j'espère que je suis gentil et j'espère que tu m'emmèneras des cadeaux.
Eh bien, la réalisatrice capte ces moments et Magdalena, notamment, va finir par voir arriver le Père Noël le 24 décembre. Un Père Noël qui a reçu des consignes des parents.
C'est très bien, tu es devenu bien plus rapide à l'école. Bravo. Continue dans tes efforts. Quand tu parles avec des adultes, ne fais pas de crise tout de suite. D'accord ? Écoute ce qu'on te dit. Oui. Voilà pour toi.
Merci.
Ça m'a démoralisée. La réalisatrice capte ses instants de vie en ce 24 décembre sans ajout de commentaire. C'est un documentaire étonnant qui aurait mérité quelques minutes supplémentaires et qu'elle mérite surtout de nous mettre face à nos propres questionnements sur ces fêtes de fin d'année.
De la diplomatie franco-chinoise à la lettre au Père Noël, c'est ça aussi. Les Trois Fantastiques, merci à tous les trois. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Matin.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, Debout les copains s'éclipsera au profit de la matinale d'Europe 1. Dans un ballet parfaitement chorégraphié où chacun tient son rôle, après lui avoir modestement chauffé la salle, je céderai la place à celui qui va vous emporter jusqu'à 9h, vous transporter aussi car il est irrésistible. Eva, vous l'avez évidemment reconnu.
C'est le désir sexuel.
Bref, c'est Nico Saliagas, le débrief de la matinale. À suivre.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Ce matin, à l'heure où Debout les copains cède la place à la matinale de Nico Saliagas, je suis triste. Presque aussi triste que la version allemande de J'ai un problème par Johnny et Sylvie Vartan. Mais pas tout à fait, parce que ça va quand même très loin. Mais me direz-vous, pourquoi es-tu triste, Mathieu ? Eh bien car j'ai un cœur moi aussi, je ne suis pas que fiel et vilaini, et parfois, au lieu de vanner Nico Saliagas et de repartir comme un voleur, j'aimerais, mon cher Nico, rester m'amuser avec vous. Déjà parce qu'à certaines de vos phrases, je devine que vous devez avoir, comme disent les Jones, du bon matos. Exemple l'autre jour.
Je regarde les yeux de Céline Dacosta et je me dis qu'il fait beau aujourd'hui.
Moi je regarde les vôtres et je me dis que quelqu'un a reçu son petit paquet en provenance du Maroc. Commandez maintenant, livraison avant Noël garantie, annoncez le site Passion Chichon. Attention quand même à ne pas trop consommer avant l'antenne, ça peut nuire à votre concentration. Nikos, et votre esprit pourtant brillant peut accoucher de formulations tautologiques comme
« Et si vous êtes dans les embouteillages, vous n'êtes pas tout seul ».
Ah non, ça c'est sûr que par définition, s'il y a un embouteillage, c'est que le type n'est pas tout seul, sinon le trafic serait fluide.
Oh, mais oui.
Attention donc aux effets secondaires. Pour le reste, c'est vrai que ça a plutôt des avantages. Ça permet notamment de rester jovial et positif en toutes circonstances, même quand le thème de l'édito éco de Nicolas Barré entre un peu en contradiction avec le slogan du sponsor de Nicolas Barré.
Souriez, c'est l'édito éco avec Région Job.
Souriez, Nicolas Barré. Week-end de violence et de débordement. Le gouvernement semble dans l'impasse, mais la situation est également embarrassante pour les syndicats.
Au rang des tout petits bémols, beaucoup de messages d'auditeurs aussi pour dire « Ok, les points météo concis, c'est bien, mais pas trop concis non plus, s'il vous plaît. »
Hello !
Ça va, Laurent, bon week-end ?
Oui.
Merci, Laurent.
C'est vrai que là, c'est quand même très, très concis. Quoi. Alors, enfin, attention aussi à cette relation qui a tendance à déborder un peu le cadre professionnel que vous avez avec Hélène Zélani.
Elle irradie le studio quand elle arrive. Hélène Zélani, bonjour, Hélène.
Bonjour, trop gentille.
Mais regardez-la. Tour sur la lune, Hélène. La matinale avec Hélène Zélani. Si on faisait une micro-sieste.
Chabadabada.
Hélène, avec qui vous avez clairement adapté, et ça semble être la stratégie gagnante, la bonne vieille technique dite de la dragouille taquine. Vous aviez ouvert les hostilités en insinuant, on s'en souvient qu'elle avait démarré à Europe 1 à une époque où même Jean-Pierre Elkabbach n'était pas encore stagiaire.
Non.
Mais voilà, Hélène Zélani a du répondant, et hier, c'est elle qui vous renvoyait dans vos 22.
Faites monter un peu la musique, les garçons. Merci, en régie.
Ah. Ah, ouais.
A Tears for Fears, parce que là, j'ai 15 ans, là. Vous aussi ?
Non, moi, j'étais pas née.
Et pas... Jusqu'où ce petit jeu vous mènera-t-il ? Faites attention, Nikos.
Trop fort, Mathieu Noël. Merci beaucoup, Eva Rock.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.